Parcours Cœur de Jésus. Se consacrer au cœur sacré de Jésus. Un parcours en 8 étapes proposé par le Père Martin Prader. Étape 4. Le cœur de Jésus et la mystique nuptiale à l'école de Saint Jean et du Cantique des Cantiques.
Bonjour chers amis, nous poursuivons notre parcours sur le cœur de Jésus en abordant un autre thème fondamental pour comprendre cette spiritualité qui est celui de ce que l'on pourrait appeler la mystique nuptiale, c'est-à-dire une mystique qui s'appuie sur le texte du Cantique des Cantiques. En effet, sur le plan historique, on pourrait dire que même si cette spiritualité se rapporte au Christ et aux apôtres, comme l'a dit le pape Pie XII dans Aurietis Aquas en 1956, historiquement, elle est venue de façon plus explicite à la conscience de l'Église à travers la lecture du Cantique des Cantiques par les moines, notamment dans la tradition bénédictine portée par les monastères de Cluny et de Citeaux en Bourgogne, Cluny depuis le Xe siècle, Citeaux à partir du XIIe siècle, qui ont relu le cantique dans sa traduction latine et ont vu l'expression de l'amour nuptial du Christ pour l'Église dans sa passion. Et à travers notamment cette phrase du cantique, « Tu as blessé mon cœur, ô ma bien-aimée, par un seul de tes regards. » Ils ont vu dans cette traduction latine que les plaies du Christ, de ses mains, de ses pieds et surtout de son côté, étaient le signe non pas d'abord de notre péché, mais de l'amour fou qui l'avait poussé à offrir sa vie pour que naisse l'Église, son épouse, qu'elle soit purifiée dans son sang et qu'elle devienne un seul cœur avec lui. Alors, je voudrais aborder ce thème en trois temps. Tout d'abord, en montrant son enracinement dans l'Évangile de Jean et dans le Cantique des Cantiques. Ensuite, en montrant comment cela s'est développé en trois temps dans la tradition ecclésiale, avec le Moyen-Âge, le XIIe, XIIIe siècle, et puis les temps modernes avec le XVIIe siècle, et enfin l'époque contemporaine avec la fin du XIXe siècle. Et dans un troisième temps, eh bien, je montrerai ce que cette mystique apporte à la compréhension de ce que c'est que la sainteté familiale, la sainteté de la vie consacrée et la sainteté du sacerdoce. Je commence par en présenter le fondement scripturaire qui est évidemment là aussi l'Évangile de Jean, mais relu à la lumière du Cantique des Cantiques. En effet, à côté du fil que j'ai traité la dernière fois, qui concerne le témoignage de Jean et de Thomas, les apôtres privilégiés en tant que témoins de l'amour du cœur de Jésus, symbolisé par la blessure de son côté, eh bien, il y a un autre fil qui parcourt tout l'Évangile de Jean, qui est, j'appellerais ça le fil nuptial, cet amour de prédilection du Christ pour l'Église, son épouse, mais aussi, d'une façon particulière, pour l'Église de l'amour, représentée par les saintes femmes et saint Jean au pied de la croix. En effet, pour bien comprendre ce qui se produit dans le transpercement du Christ, comme l'a si bien compris la tradition médiévale de la lecture du Cantique, eh bien, il faut relire ce transpercement à la lumière du signe de Cana, qui inaugure les signes de Jésus dans l'Évangile de Jean. Et derrière ce signe de Cana, eh bien, il faut voir, bien sûr, toute la mystique du Cantique du Cantique, qui est comme, j'allais dire, le sommet de la mystique de l'Ancien Testament. Au fond, à travers la figure de Jésus et de Marie, et plus particulièrement de toutes ces saintes femmes qui sont au pied de la croix, eh bien, on a comme l'évocation du mystère de l'époux et de l'épouse, qui est l'Église. L'Église qui naît, d'une certaine façon, du côté du Christ, comme Ève était sortie du côté d'Adam. à travers le sang et l'eau, les sacrements qui la font vivre incessamment, et qui en même temps se tient comme une épouse en vis-à-vis du Christ époux, qui offre sa vie pour la gloire de Dieu et le salut du monde, et qui coopère à cette œuvre du salut en la personne de Marie, debout au pied de la croix, qui est à la fois la figure de la mère, mais aussi de l'épouse, la nouvelle Ève, face au nouvel Adam, et plus généralement, au fond, la figure de la femme de la Genèse, celle à qui Dieu avait prophétisé, en la personne d'Ève, qu'il mettrait une hostilité entre elle et le serpent, qu'il lui écraserait la tête, mais que lui la meurtrirait au talon. Marie et Jésus ne font qu'un seul cœur dans l'œuvre de la rédemption. Et on pourrait dire même que cette unité des deux cœurs de Jésus et de Marie, tous deux transpercés à l'heure de la rédemption, qui est l'heure de la miséricorde, l'heure du Père mystérieusement, mais aussi l'heure des ténèbres, l'heure de Satan, qui est l'heure de Jésus et de sa croix, mais qui est aussi l'heure de Marie et de son glaive de douleur, qui est l'heure aussi de la naissance de cette humanité nouvelle représentée par Saint Jean, qui nous représente tous au pied de la croix, en tant que figure parfaite du disciple de Jésus, devenu fils de Dieu et fils de Marie, ou devenant fils de Dieu en devenant fils de Marie par le don que Dieu lui fait en son fils. On pourrait dire que dans cette heure où tout se noue, eh bien, se scelle aussi donc cette unité infrangible, indéchirable, indestructible de Dieu et de son Église, et j'allais dire à l'intérieur même de l'Église, en Marie et avec Saint Jean, de ce qui est au fond le cœur de l'Église, dans la mesure où elle se reçoit du cœur de Jésus et de Marie, cette unité pour laquelle Jésus a offert sa vie, pour laquelle il a prié le jeudi saint dans sa grande prière sacerdotale, elle est donnée au pied de la croix, dans cette unité qui relie Jésus, Marie et Saint Jean, qui est comme plus originelle que l'unité qui sera donnée par les apôtres, qui ne sont pas là à la croix, mais qui seront là au Cénacle pour recevoir avec Marie, justement, avec les saintes femmes et les frères de Jésus, le don de l'Esprit, pour être forme de l'Église, et qui elle-même est appelée à devenir forme et unité de tout le genre humain. Mais cette unité commence à la croix, dans l'unité des deux cœurs de Jésus et de Marie, qui est comme annoncé déjà à Cana, dans ce premier signe où, justement, Marie et Jésus jouent chacun leur rôle, et qu'elle-même, on pourrait dire, Cana est comme l'expression parfaite de ce qui est entrevu dans le Cantique des Cantiques. Cette dimension nuptiale de l'amour du cœur Jésus, elle parcourt tout l'Évangile, depuis le début jusqu'à la fin. Depuis le début avec Jean-Baptiste qui se présente comme l'ami de l'époux, celui qui amène l'épouse à l'époux dans le rituel des noces juives, et à la fin de l'Évangile où il y a ces retrouvailles entre Jésus et Marie-Madeleine dans le jardin de la résurrection, qui est comme un nouveau paradis où, en Marie-Madeleine, l'humanité réconciliée devient une épouse pour le Christ, le nouvel Adam, le jardinier de la création et de la rédemption. Et entre ces deux évocations nuptiales, eh bien, vous avez toutes ces femmes qui sont présentes dans l'Évangile de Jean et qui sont pratiquement toutes en figure d'épouse. La Samaritaine au bord du puits, le lieu où se nouent les alliances dans l'Ancien Testament, et notamment les alliances matrimoniales. La femme adultère, bien sûr, face au Christ, là où ni son époux ni son amant ne sont présents parce que son véritable époux, finalement, comme pour la Samaritaine, c'est le Christ. Marie de Béthanie, au moment de la résurrection de Lazare, et surtout de l'onction de Béthanie, qui apparaît elle aussi en figure d'épouse, et qui répand son nard le plus précieux sur Jésus. Ce nard dont il est question, justement, uniquement dans le Cantique des Cantiques, dans l'Ancien Testament. Les saintes femmes au pied de la croix, et notamment Marie-Madeleine, qui vit, bien sûr, avec la Vierge Marie, cette espèce de nuit de la foi, ce transpercement du cœur, par lequel s'inaugure, j'allais dire, son union définitive avec le cœur du Christ, qui va se sceller en quelque sorte dans le jardin de la résurrection. Cette rencontre si belle évoquée par saint Jean, où affleurent partout les références au Cantique des Cantiques. Donc cette dimension nuptiale, elle parcourt tout l'évangile de Jean de façon assez discrète, mais fondamentale, et Jean précisément, à la suite de Jean-Baptiste, dont il est probablement lui-même le disciple, se voit clairement comme non seulement l'ami du Christ, mais l'ami du Christ comme époux, l'ami de l'époux, témoin de la prédilection du Christ pour l'Église, mais aussi d'une façon particulière pour cette Église de l'amour représentée par les saintes femmes au pied de la croix. On pourrait se dire, pourquoi est-ce qu'il y a surtout des femmes au pied de la croix ? Et parce qu'au fond, à la croix, il s'agit avant tout d'accueillir l'amour du Christ, l'amour du cœur de Jésus. Et l'accueillir pour pouvoir se donner à lui en retour. Comme dans le Cantique des Cantiques, c'est l'amour jusqu'au bout du Christ, jusqu'à la croix, jusqu'au don total de sa vie et la remise de l'Esprit-Saint sous la forme du souffle et du sang et de l'eau, sous la forme à la fois, si je puis dire, pentecostale et sacramentelle, qui va gagner le cœur de l'épouse et lui permettre à son tour de se donner en retour pour ne faire plus qu'un seul cœur avec lui. Ce qui est vécu de façon la plus parfaite, bien sûr, en Marie, mais aussi d'une autre façon, à travers les saintes femmes qui l'accompagnent, la Vierge au pied de la croix, pour rendre à Jésus amour pour amour, mais en recevant d'abord de lui cet amour fou qui l'a poussé à livrer sa vie pour l'Église, son épouse. Il faut qu'il y ait des femmes qui soient là pour que soit manifesté précisément que l'œuvre de la rédemption, c'est une histoire d'amour, c'est la plus belle des histoires d'amour, c'est celle qui donne sens à toute l'histoire du monde, qui n'est qu'une histoire d'amour, qui n'est, j'allais dire, qu'un mariage depuis la Genèse, où Dieu crée justement l'homme et la femme dans le mariage, avant de créer toute autre chose. Il fonde tout sur la famille, et notamment l'amour nuptial qui unit l'homme et la femme dans le mariage, et jusqu'à l'Apocalypse, où vont se sceller justement les noces définitives de l'agneau dans la Jérusalem céleste, où l'humanité enfin accomplie pourra s'unir définitivement à son époux pour avec lui glorifier le Père pour son œuvre de miséricorde sur toute l'histoire du salut. Ce fil nuptial, il est fondamental, mais en même temps, il ne peut se lire qu'à la lumière aussi de ce mystère de la rédemption accompli par Jésus, qui sur la croix est non seulement l'époux, mais aussi le prêtre, l'autel et la victime. Le prêtre dont la tunique n'est pas déchirée au pied de la croix et qui offre ce sacrifice pour l'unité justement de son Église, aussi représentée par cette tunique, mais qui est en même temps la victime, car il est sur la croix, l'agneau, debout comme égorgé, celui dont le côté va être transpercé pour que tout son sang soit répandu à l'heure même où dans le temple on immolait les agneaux préparés pour la Pâque qui devait être célébrée le soir de ce jour. Le prêtre, la victime, et finalement l'autel, car il est aussi le temple eschatologique, le temple entrevu par Ézéchiel, ce temple d'où jaillit l'eau vive qui redonne vie au monde sous le signe du sang et de l'eau. Le temple où s'accomplit l'alliance du ciel et de la terre. Ces deux symboliques sacrificielles, sacerdotales, cultuelles d'un côté, nuptiales de l'autre, en réalité ne peuvent pas être dissociées l'une de l'autre. Comme dans la Genèse où Adam apparaît à la fois comme figure d'époux mais en même temps comme le prêtre de la création, puisque le récit de la création s'achève sur l'évocation du Shabbat, et toute la création elle-même est vue comme une liturgie. Il semble même que les rédacteurs de ce texte de la Genèse ont entrevu dans la création quelque chose comme ce qui était construit à la même époque, le temple de Jérusalem, où se nouait l'alliance entre Dieu et son peuple. Et à la fin de l'Écriture, nous avons cette évocation là aussi de la liturgie céleste qui s'accomplit en présence de Dieu et de l'agneau. Cette liturgie qui est comme le déploiement dans le ciel de ce qui était accompli dans la vie du Christ et tout particulièrement sur la croix, mais qui finalement permet à toute l'humanité de pouvoir trouver en Jésus le grand prêtre par excellence, le défenseur, celui qui vient à son secours dans le combat, le grand combat qu'elle a à mener contre l'esprit du mal, contre le péché et finalement contre la mort, que ce soit la mort corporelle ou la mort spirituelle. Donc nous avons dans l'évangile de Jean toutes ces deux symboliques qui se croisent partout, la symbolique liturgique, sacrificielle, la symbolique nuptiale, et j'allais dire cela nous renvoie aussi au cantique des cantiques. Vous savez que dans la tradition d'interprétation de ce texte, on n'a jamais trop su s'il s'agit d'un texte qui évoque l'amour d'un homme pour une femme, dans le sens de la création, ou un texte qui évoque les noces mystiques de Dieu avec son peuple, ces noces chantées par les prophètes depuis Osée, en passant par Jérémie, Isaïe, Ézéchiel. En réalité, comme souvent, probablement qu'il faut prendre les deux interprétations ensemble. Le cantique se situe d'ailleurs historiquement après l'exil. À une époque, justement, dans la littérature de sagesse, on fait la synthèse de ce qui a été la Torah et les prophètes. Il est probable qu'en réalité, il faut tenir ensemble ces deux significations, celles qui nous rattachent à la création à travers l'amour entre l'homme et la femme, et celles qui nous rattachent à l'histoire du salut à travers cette alliance entre Dieu et son peuple, parce que, au fond, pour comprendre ce que c'est que l'amour pour une femme, il faut regarder, comme l'ont si bien compris les prophètes, l'amour de Dieu pour son peuple. Mais inversement, si on veut chanter l'amour de Dieu pour son peuple, on ne peut que recourir à ces catégories de l'amour de l'homme pour la femme, parce que c'est ceux qui parlent le plus au cœur de l'homme, et encore peut-être encore davantage au cœur de la femme. En tout cas, il est probable que le langage symbolique du cantique permet cette interprétation, j'allais dire, à plusieurs niveaux, car un symbole est toujours susceptible de plusieurs interprétations qui ne se contredisent pas, qui se complètent, qui s'enrichissent mutuellement. Et ce qui est vrai de l'Ancien Testament vaut a fortiori pour le Nouveau Testament. Quand Paul dit « Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église, il s'est livré pour elle », il laisse entendre que pour comprendre ce qui s'est produit dans le mystère de la rédemption, eh bien, il faut comprendre ce que c'est que l'amour pour une femme, et inversement, pour comprendre ce que doit être l'amour pour une femme dans le mariage, tel que le vit un couple chrétien uni par le sacrement de mariage, eh bien, il faut regarder l'amour du Christ pour son Église, et notamment l'amour de Jésus sur la croix. On voit bien comment l'enseignement de Paul rejoint celui de Jean, et au fin rejoint la tradition interprétative du cantique, qui voit à la fois un chant mystique de l'amour de Dieu pour son peuple et en même temps un chant d'exaltation de ce que c'est que la beauté du mariage et à travers la beauté du mariage, la beauté de toute la création, dont l'homme et la femme liés dans le mariage sont comme le sommet dans le récit de la création de la Genèse. Cette tradition nuptiale, si fortement enracinée dans les Écritures, elle s'est développée en trois temps dans la tradition ecclésiale. Le premier temps, je l'ai déjà évoqué, c'est l'époque du Moyen-Âge, où les moines et les moniales ont lu le cantique à la lumière de la Passion du Christ, et la Passion du Christ à la lumière du cantique. Au passage, vous savez que les cloîtres sont comme l'évocation précisément à la fois de ce paradis, de la Genèse et de l'Apocalypse, mais le paradis qui est aussi mystérieusement dans l'évangile de Jean, la croix et le tombeau du Christ, parce que c'est là que s'opère justement le retour de l'homme dans l'alliance avec Dieu. Ces moines qui ont construit les monastères, et en particulier dans notre pays, la France, qui ont couvert l'Europe de monastères, les moines de Cluny, ceux de Cîteaux, eh bien, ils ont vu dans ces cloîtres aussi l'évocation de ce jardin du Cantique des Cantiques, qui évoque justement le paradis, mais qui évoque aussi cet amour justement entre l'homme et la femme. Et ils ont relu tout ça à la lumière de la passion du Christ. Et ils ont vu dans le Christ crucifié l'expression même de l'amour de Dieu pour son peuple tel qu'il est chanté dans le Cantique. Et celui qui a, j'allais dire, le plus fait connaître cette interprétation, c'est Saint Bernard au XIIe siècle. Et on pourrait dire que c'est avec lui que d'une certaine façon va se déployer la mystique du cœur de Jésus en Occident. Saint Bernard a eu des expressions célèbres comme celle-ci. La plaie du côté nous a donné accès au secret du cœur, les entrailles de bonté de notre Dieu. Il a su, en contemplant les plaies du Christ, notamment celles du côté, discerner l'amour de son cœur, précisément parce que le texte du Cantique fait dire au bien-aimé « Tu as blessé mon cœur, ma bien-aimée, par un seul de tes regards. » C'est aussi Saint Bernard qui a pu avoir des expressions justement célèbres comme comment l'amour, c'est-à-dire Jésus en croix, comment l'amour ne serait-il pas aimé? Ou encore, la mesure de l'amour de Dieu, c'est d'aimer sans mesure. Saint Bernard, au fond, on a pu dire de lui que c'était un chevalier sous sa robe de bure. Il est comme l'expression de la rencontre entre la culture de l'époque, une certaine élite, la culture courtoise, la culture des chevaliers, les chevaliers servants, la culture des troubadours, des ménestrels, venu du sud de la France, avec justement cette lecture du Cantique par les moines. Et dans cette perspective, on ne sait pas au fond qui a influencé qui. Est-ce que c'est la mystique qui a influencé la culture ou la culture qui a influencé la mystique? En réalité, probablement, il y a eu un croisement de deux influences. Cela a conduit d'une part à voir de plus en plus la vie religieuse et la vie chrétienne en général comme une histoire d'amour, la plus belle de toutes les histoires d'amour, mais aussi à voir dans le mariage justement aussi une histoire d'amour. Une histoire d'amour entre l'homme et la femme. Le fait de se marier pour apprendre à s'aimer n'était pas si évident que ça dans l'Europe d'avant le XIIe siècle. Il y avait entre l'homme et la femme un rapport plutôt de domination. La femme cherchait protection chez son mari qui était comme le guerrier qui était là pour la protéger, mais qui aussi la dominait. À partir du XIIe siècle, avec le chevalier servant, il y a comme une inversion. C'est le chevalier qui prête allégeance à sa dame, qu'il considère comme sa suzeraine, qu'il va servir. Il est possible que dans cette culture courtoise, il y a eu aussi, en tout cas pour le meilleur de cette culture, une influence chrétienne. Ce qui est sûr, c'est qu'on va désormais pouvoir lire comme un chrétien de Troyes, par exemple, le mariage à la lumière du Cantique, mais de la même façon qu'on lit la vie religieuse à la lumière du Cantique. Et ainsi, on pourrait dire, comme l'a dit Jean-Paul II lorsqu'il est venu à Paray-le-Monial le 5 octobre 1986, qui est né à l'ombre des cloîtres en Europe et particulièrement en Bourgogne et particulièrement au XIIe siècle, une civilisation de l'amour. Qu'on pourrait qualifié comme étant une civilisation de l'amour avec un grand A, qui est Jésus et Jésus crucifié, mais qui du coup a changé complètement la relation entre l'homme et la femme. Bien sûr, dans la perspective de Saint Bernard, la femme par excellence, c'est la Vierge Marie, c'est Notre-Dame. C'est à partir du XIIe siècle qu'on va rebaptiser toutes les églises dédiées à la Vierge Marie en France, sous le vocable de Notre-Dame, qui est probablement la plus belle chose que la France a pu donner au monde. Ce n'est pas pour rien si le monde entier s'est ému de l'incendie de Notre-Dame. Parce que c'est le cœur de notre culture, mais qui lui-même vient du cœur de notre foi chrétienne, et je dirais de son inculturation dans cette Europe du XIIe siècle, et à travers celle-ci, de la naissance en France d'une civilisation de l'amour. Bien sûr, dans certains milieux, mais quand même. Une célébration de l'amour mis en relation avec sa source, qui est le cœur de Jésus transpercé sur la croix, et j'allais dire le cœur de Marie associé à celui du Sauveur dans l'œuvre de la rédemption. cette civilisation de l'amour, elle va s'étendre dans toute l'Europe dans les siècles qui vont suivre, et notamment au XIIIe siècle à travers des grandes figures mystiques comme Saint François, comme Sainte Gertrude en Allemagne, comme Sainte Ludgarde en Belgique. Mais en même temps, comme toujours lorsqu'on reçoit des dons de Dieu, on est toujours tenté sur les dons que l'on reçoit, eh bien cette culture de l'amour va être aussi attaquée par des tentations, celles peut-être justement contre lesquelles ont réagi les saints que je viens d'évoquer. François d'Assise venait de l'Italie du Nord, de l'Ombrie, où est né le capitalisme au XIIIe siècle, dans le cadre d'une civilisation urbaine qui a commencé à émerger à ce moment-là, mais où l'amour de l'argent risquait de remplacer l'amour de l'amour avec la disparition progressive de la féodalité. Et François a vécu douloureusement cela. Lui qui disait « l'amour n'est pas aimé », là où un siècle plus tôt, Saint Bernard disait « comment l'amour ne serait-il pas aimé ?» L'amour, encore une fois, qui est Jésus en croix. Saint François s'est voulu un chevalier qui épouse Dame Pauvreté, Claire d'Assise, vivait de la mystique du Cantique des Cantiques, et il a proposé à son temps cette évocation, j'allais dire, du cœur du Christ à travers sa propre vie crucifiée, mais en même temps transfigurée, au moment où il compose le Cantique des Créatures, mais où il se présente aussi en quelque sorte pour toute l'Église, comme l'évocation de l'époux lui-même qui lui rappelle sa vocation à l'amour. De la même façon, à la même époque, en Allemagne, Sainte Gertrude, bénédictine, originaire d'Eisleben, tout près de ce qui sera la patrie de Luther 2 siècles plus tard, et qui cherche Dieu dans les livres, mais qui n'y trouve pas la paix, eh bien, bénéficie d'une apparition de l'apôtre Saint Jean, le jour de sa fête, qui lui dit « Viens, j'ai quelque chose à te montrer ». Saint Jean la fait reposer sur la poitrine du maître, où elle entend les palpitations du cœur Jésus, par lesquelles elle est remplie d'une suavité indicible, parce qu'elle a trouvé enfin le repos qu'elle cherchait sans le trouver dans les livres. Et Sainte Gertrude, alors, à ce moment-là, demande à Saint Jean, mais comment, toi, le disciple bien-aimé, qui le premier a expérimenté les battements du cœur du Christ le jeudi saint, quand tu as reposé sur la poitrine du maître, comment se fait-il que dans ton évangile, tu n'aies pas parlé de ces battements? Et Saint Jean lui répond, dans mon évangile, je n'ai consigné qu'une seule parole qui suffirait à nourrir l'intelligence de l'Église jusqu'à la fin du monde, sans jamais qu'on puisse en percevoir toute la profondeur, donc le témoignage qu'il rend au Verbe, la parole vivante du Père dans son évangile. Mais, dit-il, il était réservé à ces temps où la charité se refroidit dans les cœurs, donc ce XIIIe siècle, avec l'avènement de cette civilisation urbaine, mais qui est aussi l'avènement à travers l'université, de ce déploiement, de ce dialogue entre foi et raison, mais aussi de la tentation de l'intellectualisme, qui peut aussi dessécher le cœur. Donc il était réservé à ces temps où la charité se refroidit dans les cœurs, de faire l'expérience des battements du cœur du Christ. Et la troisième mystique de cette époque, c'est Sainte Ludgarde de Évouillère, en Belgique, qui a une histoire d'amour avec un adolescent et qui a à ce moment-là une apparition du Christ qui lui dit, dans le plus pur style courtois, « Cesse cette sotte amourette. Regarde, en lui montrant la plaie de son côté, regarde celui qui t'aime et pourquoi tu dois l'aimer. » Effectivement, le drame d'une culture courtoise de l'amour, c'est que si l'amour humain est détaché de sa source, qui est l'amour divin, et en particulier l'amour du Christ pour son Église, il peut aussi finalement se dégrader dans son contraire. L'amour humain peut devenir trop humain. L'amour de l'amour peut devenir finalement la pire des choses, sous la forme d'un amour libertin qui peut devenir un amour libertaire. Au fond, on peut tout justifier au nom de l'amour, y compris les pires choses. Et donc, à travers la plaie de son côté, Jésus rappelle à cette jeune femme que l'amour par excellence, c'est le sien, c'est même lui, l'amour total, absolu, éternel, infini, qui seul peut donner sens à nos amours humaines, et bien sûr qui peut à lui seul suffire pour ceux qui, comme elle, ont reçu la grâce de l'appel à la vie consacrée. Et donc, à travers ces trois saints, sont manifestées comme trois tentations qui peuvent dégrader une civilisation de l'amour avec un grand A, à savoir l'amour de l'argent, l'intellectualisme et l'amour de l'amour avec un petit a, détaché de sa source divine. Au siècle suivant, au XIVe siècle, on pourrait ajouter cette tentation tout à fait française du nationalisme, du gallicanisme, qui est comme une idolâtrie finalement de la nation et du coup aussi du pouvoir politique, ou du pouvoir politique et du coup de la nation, mais parce que précisément, ce qui devrait être une civilisation de l'amour n'est plus rapporté à sa source divine, telle qu'elle est donnée dans le cœur du Christ et de Marie, mais aussi dans le cœur du pape. Donc, nous avons ici des tentations, mais par la miséricorde de Dieu, va être redonnée à la France, à l'époque des temps modernes, sa vocation à être non pas le pays, du libertinage ou de l'intellectualisme, ou d'une civilisation de l'intérêt, du libéralisme, mais le pays de l'amour, à travers deux grandes figures qui sont Bérulle et François de Sales. Je voudrais parler plus de François de Sales, même si Bérulle est très important aussi, parce que c'est vraiment lui qui a préparé immédiatement les révélations de Paray-le-Monial. En effet, François de Sales, originaire de Savoie, qui était à l'époque encore sous influence italienne, mais de langue française, à l'âge de 17 ans, a été introduit à la lecture du Cantique des Cantiques par un moine bénédictin de Cluny, Gilbert Génébrard, et à travers cette lecture, il a été ébloui, il a découvert au fond que toute l'histoire de Dieu avec les hommes, toute l'histoire du monde, toute l'histoire de nos vies humaines, au fond ce n'est qu'une histoire d'amour, même si parfois les apparences peuvent donner l'impression du contraire. Et François de Sales, après d'ailleurs avoir dû mener un combat spirituel pour ne pas sombrer dans le rigorisme de son temps, eh bien, a su développer sa mystique de l'amour, à la fois pour des gens qui sont dans le monde, à travers l'introduction à la vie dévote, mais aussi pour des personnes davantage données à la contemplation, comme les Visitandines dans son ouvrage « Le traité de l'amour de Dieu », et où justement, au fond, la symbolique du cantique va être fondamentale. Dans cette spiritualité salésienne, va être donnée une place tout à fait particulière à ce que François de Sales, justement, appelait le cœur de Jésus et de Marie. Il dira à Sainte-Jeanne de Chantal, qui va fonder avec lui l'ordre de la Visitation, que cet nouvel ordre qui naît est un ouvrage du cœur de Jésus et de Marie. Et la mystique des Visitandines, ce sera celle du Cantique des Cantiques. Au fond, la première expérience que vivra Marguerite Marie, de cette sorte d'échange du cœur qui aura lieu entre elle et Jésus, le 27 décembre 1673, s'inscrit dans cette symbolique nuptiale. À la même époque, plus ou moins, que François de Sales, un autre grand réformateur et saint, mais non canonisé, Bérulle, va déployer ce qu'on va appeler plus tard la mystique de l'école française, qui va beaucoup méditer sur l'incarnation de Jésus dans le sein de Marie, qu'il va voir comme étant en quelque sorte le modèle de toute vie chrétienne, c'est-à-dire cette remise de soi à Dieu par Marie, pour la gloire de Dieu et pour le salut du monde, où Jésus s'est fait le serviteur, l'esclave, comme le chante si bien la lettre aux Philippiens de saint Paul, qui l'a conduit par l'obéissance à cet anéantissement et finalement jusqu'à la croix. Mais tout cela pour permettre, paradoxalement, à l'homme de retrouver sa vocation à être serviteur et mieux enfant de Dieu par Marie, avec Marie, en Marie. Là aussi, à travers le mystère de l'Annonciation, eh bien, il y a une évocation chez Bérulle de ces deux cœurs, celui de Jésus et de Marie, qui sont unis dans l'accomplissement de l'œuvre du Père. Et Saint Jean Eudes, qui va faire toute la théologie du cœur de Jésus et de Marie, se situera un peu comme au confluent de François de Sales et de Bérulle, en développant sa théologie. Il y verra, dans cette union du cœur de Jésus au cœur de Marie, le modèle de la vie chrétienne en tant que Marie est la disciple par excellence, d'un disciple missionnaire, pour parler comme le pape François, et quel est le modèle de tous les chrétiens dans son unité avec le cœur de Jésus, pour reproduire en elle tous les mystères de la vie du Christ. Cette intuition géniale que va déployer Saint Jean-Hugues, c'est qu'au fond, pour lui, l'unité des deux cœurs est le lieu même de la communion ecclésiale, c'est le cœur de l'Église. Lorsque Saint Luc nous raconte dans les Actes des Apôtres que les premiers chrétiens n'avaient qu'un seul cœur et qu'une seule âme, bien, au fond, pour Saint Jean-Eudes, c'est que ce seul cœur, ce cœur unique, pour parler comme le livre d'Ézéchiel dans l'Ancien Testament, ce cœur humble, Ephredad, Erad, c'est le cœur de Jésus et de Marie, qui est le cœur de l'Église. Et donc, c'est le lieu de la communion entre Dieu et les hommes entre eux, dans le cœur de Jésus et de Marie. Tout cela, c'est un peu tout ce qui va préparer les apparitions de parémoniales. On peut dire que Marguerite Marie est à la fois une disciple de François de Sales, évidemment, très salésienne, à l'école du cœur de Jésus et de Marie. Elle aura d'ailleurs même une apparition où elle verra son petit cœur dans le cœur de Jésus et de Marie. Mais elle est aussi bérulienne, notamment parce qu'elle va déployer comme réponse à l'amour de Dieu, manifesté dans le cœur de son fils, les notions de consécration et de réparation qui renvoient davantage à la mystique bérulienne. Et qu'au fond, chez elle, comme chez Claude la Colombière, on retrouve vraiment cette spiritualité des deux cœurs. À travers parémoniales, on pourrait dire qu'a été redonné à la France et à l'Europe cet appel à être le pays de l'amour, le continent de l'amour, à une époque où, de nouveau, l'Europe, et la France en particulier, était traversée par de grandes tentations. Tentations de l'idolâtrie de l'intelligence, une forme de rationalisme au XVIIe avec Descartes, mais qui va se manifester au XVIIIe à travers un philosophisme qui va, au nom soi-disant de la raison, récuser la révélation, et donc notamment la révélation de Dieu comme amour. Aussi la tentation, il faut bien dire, du libertinage, qui était très présent à la cour du roi Louis XIV, hein, l'esprit libertin aussi, dans le sens philosophique du terme, et puis aussi ce rigorisme, hein, dont avait beaucoup souffert François de Sales, mais qui se manifeste à l'époque de Marguerite Marie par l'hérésie janséniste, hein, qui donne de Dieu un visage terrible, déformé, au fond, un Dieu de justice qui n'est plus le Dieu d'amour. Derrière tout cela, se dessine la crise du XVIIIe siècle, la crise des Lumières et de la Révolution. Non pas qu'il n'y ait pas des choses à retirer des Lumières et de la Révolution française, bien sûr, mais le point le plus délicat, c'est de remettre l'amour au centre, et l'amour en tant que précisément il se révèle dans le cœur de Jésus uni à celui du cœur de Marie. À la suite de toutes ces péripéties du XVIIIe et du XIXe, le XIXe siècle va être le siècle de la redécouverte du cœur de Jésus et de Marie, notamment dans notre pays, à travers les apparitions, les nombreuses congrégations, les saints, les mystiques qui vont en parler. Mais aussi, il faut le dire de nouveau, de la montée en puissance de nouvelles hérésies, le libéralisme, le socialisme, qui ne donnent pas toute sa plénitude à la vocation de l'homme à l'amour. Et cela va donner pour notre pays une forme de déchristianisation vers la fin du XIXe siècle, dans le contexte de laquelle, va être développée à travers la petite Thérèse une nouvelle mystique, on pourrait dire, du cœur de Jésus et de Marie, dans un contexte de post-chrétienté, qui est, au fond, le cœur de Jésus relu de façon nuptiale, de nouveau, et maintenant sous le signe de la miséricorde. Hein. Thérèse, à une époque où les catholiques français pouvaient être tentés par une récupération nationaliste et politique, hein, voire aussi doloriste, de l'amour du cœur de Jésus, spontanément, va retrouver sa dimension nuptiale. Elle dira « Je ne vois pas le Sacré-Cœur comme tout le monde. Pour moi, je pense que mon bien-aimé est à moi et que je suis à mon bien-aimé. Je reste souvent seul à seul avec lui dans ce délicieux cœur à cœur avant de le contempler un jour face à face. » Elle relie spontanément, comme Marguerite Marie, la mystique de Jésus à la lumière du Cantique des Cantiques. Et en même temps, elle la relie aussi à la lumière de Saint Jean de la Croix, c'est-à-dire que pour elle, les noces se scellent non pas dans la pleine lumière, mais dans l'obscurité de la nuit de la foi. Et en même temps, elle le relie aussi à la lumière de la miséricorde. Elle veut vraiment consoler le cœur de Jésus, et elle écrit son acte d'offrande à l'amour miséricordieux dans cette perspective qui est très en consonance avec le message de Parégonial, mais elle comprend aussi qu'elle ne peut rendre à Jésus amour pour amour qu'en recevant de lui cet amour et sous le signe de l'amour miséricordieux. Et c'est à travers cette compréhension de l'amour miséricordieux du cœur de Jésus qu'elle va aussi vouloir aller à la rencontre de ses frères, de tous ses frères de son époque, croyants ou incroyants, et même aller partager de l'intérieur le combat du monde athée de son temps, cette tentation de la désespérance et de l'incroyance. Et en cela, elle inaugure, j'allais dire, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une nouvelle évangélisation de la France sécularisée au XXe siècle et au XXIe siècle. À travers la tradition de l'Église, cette pente nuptiale de l'amour du cœur de Jésus nous a été redonnée avec des connotations nouvelles, différentes, mais toujours concordantes. Alors je voudrais essayer rapidement, pour conclure, de montrer les applications de cela concrètement pour la vie des couples, la vie des consacrés et celle des prêtres. Tout d'abord pour les couples, il est normal qu'on commence par les couples, puisque c'est aussi par là, d'une certaine façon, que à travers la lecture du Cantique, on a mieux compris l'amour du cœur de Jésus. Eh bien, c'est le père Matteo, au début du XXe siècle, qui a reçu de Dieu, à Parémonial, ce projet de regagner le monde à Jésus par la famille, en intronisant le Sacré-Cœur dans les foyers. Et en monnayant ainsi ce qui avait été dit à Marguerite Marie à Parémonial, à savoir que le Sacré-Cœur bénirait les maisons où il serait exposé et réunirait les familles divisées. De fait, le père Matteo, suite à des grâces reçues à Parémonial, notamment à la visitation, va populariser dans le monde entier, sur les 5 continents, l'intronisation du Sacré-Cœur dans les foyers, pour rappeler justement aux époux que la source de leur amour se trouve dans le cœur de Jésus et de Marie, dans les sacrements, dans l'Eucharistie tout spécialement, dans la prière en famille, dans la douceur et l'humilité de son cœur, dans les grâces du pardon que l'on peut se donner, et dans cette capacité aussi de se mettre au service de l'autre, au service aussi de tous ceux qui sont confiés à ces familles, à ces couples, à savoir les enfants que Dieu peut leur donner, mais aussi tous ceux qui, au-delà même du cercle étroit de leur fécondité biologique, peuvent être les enfants qui leur sont confiés jusqu'à l'infini, à la fois par une paternité-maternité éducative, mais aussi ultimement par une paternité, maternité spirituelle. À côté des couples qui peuvent trouver dans la mystique du cœur de Jésus vraiment le cœur et le centre de leur vie conjugale, il y a aussi bien sûr les consacrés qui donnent sens d'ailleurs à cette mystique conjugale en montrant justement que l'amour du cœur de Jésus suffit pour accomplir sa vocation d'homme et encore plus de femme, dans le sens où finalement le Christ est l'époux par excellence. Et donc qu'il peut suffire à accomplir ce besoin d'amour que nous portons tous en nous, mais aussi ce besoin de fécondité, puisque par l'union au cœur de Jésus, on peut devenir fécond à l'infini, comme l'a été la Vierge Marie. Et donc, il y a là, bien sûr, aussi un accomplissement, et je dirais même quelque chose d'absolument incontournable pour comprendre le mystère de la vie consacrée, à condition, bien sûr, que la lecture du Cantique des Cantiques soit délesté de toute interprétation trop sentimentale, affective, voire sensuelle. Chez les moines, on ne donnait le Cantique à lire que pour ceux qui étaient déjà comme affermis dans la vie spirituelle, notamment ceux qui étaient passés par ce qu'on pourrait appeler une nuit des sens, pour éviter justement les projections trop affectives ou trop, voire sensuelles, dans les lectures du Cantique. Je crois que c'est très important, surtout dans le contexte culturel dans lequel nous vivons. Mais néanmoins, cette symbolique nuptiale du Cantique, elle est absolument incontournable pour la mystique en général, et pour la vie consacrée en particulier. Et puis, à côté de cette dimension plus féminine de la symbolique nuptiale, il y a aussi la dimension plus masculine qui s'incarne dans le sacerdoce et dans la vie consacrée masculine. Dans le sacerdoce, en tant que le prêtre, quand il célèbre les sacrements in persona Christi, et notamment dans l'Eucharistie, il est, comme l'a si bien souligné Jean-Paul II, en quelque sorte la figure de l'époux qui donne sa vie pour l'Église, épouse. Et donc, il accomplit pleinement sa vocation à la masculinité. Mais aussi, j'allais dire, le frère consacré en tant que, d'une certaine façon, à l'image de Saint Joseph ou de Saint Jean au pied de la croix, il est appelé pour accueillir pleinement sa vocation à la fois à la consécration et à la fécondité spirituelle, éducative d'abord, mais spirituelle ensuite, à laquelle sa consécration est liée, eh bien de prendre chez lui Marie dans tous ses biens, comme, entre guillemets, figure de la femme et de l'épouse. Alors je voudrais conclure ce bref exposé, peut-être trop long, mais encore trop bref aussi par rapport à l'immensité de la matière, par une évocation donc de cette mystique du cœur de Jésus et de Marie, telle que l'a déployée la tradition interprétative de l'Église, notamment dans notre pays, la France. Une intuition qui a été celle du père Glotin, qui a donc tellement travaillé le cœur de Jésus pendant 50 ans de sa vie religieuse chez les jésuites, était de dire qu'au fond, la mystique du cœur de Jésus a commencé par déployer l'unité des deux cœurs, à travers la lecture du Cantique, à travers saint Bernard, à travers les saints du XVIIe siècle, et puis les apparitions de Paray le Monial d'abord, de Fatima ensuite, ont permis de distinguer mieux le cœur de Jésus et le cœur de Marie. Mais son intuition était la suivante, que je vous livre, c'est que, au fond, le XXIe siècle devrait être le siècle où on manifesterait de nouveau l'unité indestructible des deux cœurs. Pourquoi ? Parce que le temps du troisième millénaire, comme l'a voulu Jean-Paul II dans son document Tertio Millennio Ineotes, devrait être le temps d'une spiritualité de communion face à une humanité déchirée, explosée, où les tentations de division abondent, face à une Église qui elle-même parfois peut être tentée d'entrer dans cette logique de Babel, de la cacophonie, eh bien, il est urgent plus que jamais, au contraire, de se recentrer sur une spiritualité de communion, comme l'a voulu le Concile Vatican II, et que cette spiritualité, elles pourront trouver son cœur que dans l'unité du cœur Jésus et de Marie, qui est le rempart indestructible que Dieu oppose à l'esprit de division, à l'esprit du mal, qui veut détruire l'œuvre de Dieu en séparant l'homme de Dieu et l'homme de son prochain. Alors que le cœur de Jésus et de Marie nous donne d'être nous-mêmes, j'allais dire, en étant totalement unis à Dieu, unis à tous, pour entrer dans cet esprit filial et fraternel, qui a été celui des saints français que le pape François aime tant, la petite Thérèse, Charles de Foucault, et qui sont donnés un peu comme modèle pour toute l'Église aujourd'hui, à l'heure où le pape François écrit son encyclique Fratelli Tutti. Que l'amour du cœur de Jésus et de Marie, comme expression ultime de l'amour nuptial de Dieu pour son peuple dans le Cantique des Cantiques, que cet amour soit aussi le lieu de notre union à Dieu et à tous dans le cœur de Dieu.
Parcours Cœur de Jésus. C'était étape 4, le cœur de Jésus et la mystique nuptiale à l'école de Saint-Jean et du Cantique des Cantiques. Se consacrer au cœur sacré de Jésus. Un parcours en 8 étapes proposé par le père Martin Prader. Réalisé à la demande et avec le concours de l'association Civilisation de l'Amour. À suivre, étape 5, Saint Paul et le cœur de Jésus. Le cœur de Jésus comme mystique apostolique.